du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 715 du Coq à l'âne avec les coqualiens du jour. Jean Cointe, salut Jeannot.
Bonjour.
Jean-Claude Hérault.
Bonjour.
Salut Jean-Claude. Et Patounet, Patrick Faure qui est avec nous.
Bonjour tout le monde.
Salut. Notre invité, c'est Chantal Emioud. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Chantal, maire d'Embrun, bien sûr, présidente de la Comcom Serponçon, deuxième vice-présidente en charge du plan montagne et des affaires européennes. Eh bien tiens, les affaires européennes, parlons-en. Allons-y. Emmanuel Macron a pris la présidence de l'UE. Beaucoup dans l'opposition ont critiqué cette présidence, comme quoi il aurait fallu décliner l'offre à cause de la proximité des présidentielles. D'autres l'ont critiqué à cause du drapeau européen. Vous vous souvenez de ce passage, hein, sous l'Arc de Triomphe. D'autres sur son entretien avec Poutine, comme quoi il aurait été humilié en étant reçu au bout de cette table immense, un petit peu comme la table du coq à l'âne aujourd'hui. En tout cas, on a le sentiment qu'il fait rien de bon, notre président. Est-ce que tu es de cet avis-là? Je parle au niveau européen.
Non, pas du tout. Moi, je suis une européenne convaincue.
D'accord.
Et je pense que c'est une chance qu'Emmanuel Macron assure cette présidence pendant 6 mois. On l'a vu à l'œuvre dans le cadre de ses rencontres à la fois avec le président Poutine, mais également avec le président de l'Ukraine. Et je pense qu'il fait le job, incontestablement.
Alors c'est quand...
il va falloir qu'il se déclare quand même, parce qu'on a combien de jours là? J'ai pas compté ce matin.
60 à peu près.
Moins de 60 jours, non?
Moins de 60.
On est à 2 mois, quoi.
On est à 2 mois pile, je
deux
pense.
Mois pile.
On est à 2 mois pile.
Oui, puisqu'on est le 10 février, c'est le 10 avril.
Oui, Patrick?
Non, rien de particulier.
Ah non, je me
posais la question, c'est quand il allait voir Poutine, c'était le président de la France ou de l'Europe qui...
Ah ben non, c'était... Il avait l'étiquette...
Ça servait pas pour les élections...
Européennes.
De la présidentielle.
Non,
Chantal, non, mais c'est ce qu'il semble.
Attends, qu'est-ce que tu dis?
Je voudrais que Chantal nous précise, parce qu'elle connaît bien le droit européen, moi beaucoup moins. Est-ce que c'est par roulement, bien entendu, la présidence de l'Europe? Et quelles sont les réelles, on va dire, compétences d'un président pour 6 mois?
Mon Dieu!
Alors, elles sont donc à la fois d'ordre diplomatique, et on le voit très bien.
Ben, on l'a vu là, d'ailleurs.
Absolument. Donc, un président de l'Europe, il est d'abord et avant tout là, sur une très courte durée. Il ne peut pas faire grand-chose. Il ne va pas bouleverser le fonctionnement de l'Europe, bien évidemment. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, un rôle de fédérateur, de diplomate qui est essentiel pour travailler sur des sujets d'importance. Bien sûr, donc le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais également sur des sujets liés notamment à l'énergie et pourquoi pas des sujets liés en particulier au nucléaire. Je pense que tous ces sujets-là, les migrants aussi, bien sûr, hein, puisque au début de ma première mandature de vice-présidente à la région, nous étions avec Christian Estrosi et Renaud Muselier montés à Bruxelles. On avait rencontré un certain nombre de commissaires européens, de députés européens, notamment sur le sujet des migrants, parce que moi j'ai toujours considéré que le sujet des migrants devait être porté et partagé à l'échelle européenne. On ne peut pas laisser les pays seuls face à eux-mêmes, et surtout pas l'Italie qui est le pays le
plus... qui est la porte ouverte, la porte d'entrée.
Le plus exposé
comme
avec
la Grèce, d'ailleurs,
tout ça. Et je pense que ce sujet aussi peut et doit faire partie des missions d'un président de l'Union européenne pendant les quelques mois qu'il a.
Est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt, au niveau de la Constitution européenne, à prévoir des durées plus longues, quitte à ce que certains pays secondaires ne soient pas toujours éligibles, on va dire?
Alors, certes, mais dans une communauté, il faut être en capacité de partager de façon équilibrée. Je le vois même à l'échelle des intercommunalités. C'est comme une petite Europe. Là aussi, il faut travailler de façon très, très équitable pour que chacun, chaque pays, chaque commune s'y retrouve.
Et tout ils se sentent appliqués aussi.
Tout l'art de la réussite d'une bonne coordination passe aussi par ce respect et par cet équilibre, pour que chacun se sente écouter.
Tu parlais d'énergie, transition énergétique. Tu crois cette transition Et à quel terme ?
Bien sûr, non, on est déjà en plein dedans. La transition énergétique, c'est un vrai sujet. Moi, je suis très pragmatique. Et aujourd'hui, toute mon action politique, l'action de la région, l'action de la communauté de communes et de la commune dans lesquelles je suis impliquée, travaille à la transition énergétique, mise en avant des énergies renouvelables, bien évidemment le bois, le photovoltaïque, l'énergie électrique, avec la voiture électrique, les bornes électriques.
L'éolien ?
L'éolien, tout dépend où. Vous savez que l'éolien, je crois que la quasi-totalité des Français sont favorables à l'éolien, mais surtout pas,
mais
chez
pas
eux.
Chez voilà, soi. Donc,
mais l'éolien, ouais. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais...
Il y a l'hydraulique aussi.
Et l'hydraulique, évidemment.
Notre département est particulièrement riche. Et je pense d'ailleurs qu'en matière d'hydraulique, je le dis souvent, il serait bon de reprendre des projets qui sont restés dans les tiroirs. Parce qu'on peut développer encore l'hydraulique dans notre département et dans les départements alpins.
Absolument. Microcentrale, picocentrale.
Tu parlais de bornes, ça tombe bien. Il y a eu l'inauguration de la borne de recharge rapide donc, de Montgenèvre. La rapidité de recharge et l'autonomie, je pense, sera les défis hein, de l'avenir pour les véhicules électriques. Puis il faudra aussi penser aux batteries, au recyclage et puis à la tonne d'électricité qu'il faudra si demain on roule tous à l'électrique, en sachant qu'on n'a toujours pas trouvé mieux que le nucléaire pour notre énergie. Et d'ailleurs, dans son déplacement à Belfort, le président, bien sûr, a fait plusieurs annonces sur la politique énergétique de la France. Réduction de la consommation énergétique des Français de 40% à l'horizon 2050. Donc ça passe par une rénovation des logements, le renouvellement du parc automobile, la décarbonisation de l'industrie grâce notamment à l'hydrogène, le développement des énergies vertes, de nouveaux réacteurs pour relancer la filière nucléaire. On parle de 6 EPR de deuxième génération et on étudie la construction de 8 autres réacteurs de même type d'ici 2050. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui, donc le futur de la France, c'est par l'énergie nucléaire ?
Alors, la solution, elle est dans la diversification des modes énergétiques. Moi, je suis évidemment favorable aux énergies renouvelables, d'abord et avant tout. Dans des territoires où on peut même envisager une forme d'autonomie énergétique, il faut pouvoir le faire. On aura du mal à y arriver, mais en tout cas, il faut tendre vers. Mais on ne peut pas... la solution n'est pas que dans les énergies renouvelables. Il faut absolument compléter avec l'électricité et le nucléaire est une des réponses. Bien évidemment, ça permet de positionner la France comme l'un des pays où l'électricité est la moins chère.
Oui, le problème, c'est que si on revient 10 ans en arrière, on avait dit le nucléaire...
Ouais, c'est fini.
C'est fini, quoi. Il faut penser à autre chose. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose.
On rêvait.
Il y avait même tout un programme de fermeture des centrales.
Ce sont les socialistes et poussés par les écolos.
C'est méchant, les socialistes. C'est méchant.
C'est tout.
J'ai vu que ce matin, ça a pas traîné, puisque EDF annonce... pour sa filière nucléaire, recruter je ne sais plus combien de milliers de salariés, d'ingénieurs et autres.
Et oui.
Quoi qu'il arrive, les besoins vont être énormes. Bien sûr. Parce qu'il va falloir déconstruire, alors je ne sais pas comment on dit, les vieilles centrales, parce qu'il y a ça aussi, hein, et c'est pas une petite affaire.
Hein. Ah oui.
Dans la mesure où on va vers les voitures électriques, on ne veut plus de carbone, plus rien. Je veux dire, on n'a pas le choix, parce qu'il va y avoir une très très forte demande en électricité.
Et c'est ça, ce que je disais.
Donc, si on veut maîtriser le prix, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers le nucléaire.
Parce qu'en plus de ça, nous étions exportateurs d'électricité jusqu'à ces dernières années, puis apparemment maintenant on importe aussi comme les autres, parce qu'on a 2 ou 3 centrales qui sont...
Ça dépend des périodes. Là, actuellement, qui ne fait pas très froid en France, j'ai vu ce matin qu'on exportait de nouveau de l'électricité.
Ce qui est paradoxal, parce qu'on exporte de l'électricité, mais d'un autre côté, on a remis en route des centrales à charbon.
Pas encore.
Ah bon.
Le gouvernement a fait en sorte que s'il y avait une vague de froid, on puisse redémarrer les centrales à charbon. Pour l'instant, elles ne sont pas redémarrées.
Et puis, il y a beaucoup de réacteurs.
On va pas faire du charbon pour exporter l'énergie.
Il y a beaucoup de réacteurs aussi qui sont en ce moment à l'arrêt, pour des révisions, pour retaper un peu tout ça.
Sur le nucléaire, on ne peut pas passer sous silence les problèmes de sûreté nucléaire.
Ah bah oui.
Aujourd'hui, on a vu...
De déchets.
Il y a les déchets et le problème d'accidents qui pourraient éventuellement arriver.
Vous avez vu le témoignage, je ne sais pas si vous avez suivi le témoignage de cet ingénieur, enfin je ne sais pas si l'ingénieur, peu importe, qui dénonce le manque de sécurité, de sûreté nucléaire. Alors je crois que c'est à Trécastin, c'est pas très loin de chez nous d'ailleurs. Alors après, est-ce que c'est de l'enfumage, est-ce que c'est sérieux, ça me donnait l'impression d'être sérieux, moi qui suis un peu puisque moi je suis d'origine à GEDF, donc je connais un peu la filière, même si, bon, mais...
J'ai pas dû y passer beaucoup de temps là-bas.
Non, moi j'ai passé beaucoup plus de temps dans l'hydraulique, je reconnais. Mais il n'empêche que je me suis intéressé au sujet, et ce que dénonçait ce lanceur d'alerte me préoccupe, quoi. Voilà, enfin,
je pense que les questions de sécurité, elles se traitent. Ce qu'il faut, c'est avoir une ligne de conduite, un objectif. Si on considère que le nucléaire est la solution pour produire une énergie qui soit peu onéreuse et qui permet d'envisager et l'avenir
suffisante
et complétée, avec le nucléaire, les énergies renouvelables, franchement, les questions de sécurité et autres, tout ça s'organise. Et il faut là aussi travailler sur la gestion des déchets nucléaires, parce que c'est un vrai sujet.
Et le président a aussi annoncé des parcs éoliens en mer, les prévisions.
Oui, on a beaucoup de retard à la matière par rapport à d'autres pays.
Oui, mais les pêcheurs, ils ne sont pas d'accord.
Ben oui,
c'est toujours le problème. Ouais, hein, on parlait tout à l'heure de l'éolien. Tout le monde dit, ouais, c'est bien l'éolien. Sauf que ça pourrit le paysage et ça empêche les pêcheurs d'aller pêcher les poissons.
Moi, je regrette que, par exemple, on se calque sur l'attitude sur la politique volontariste des Allemands pour faire tout électrique en voiture, mais c'est peut-être une grosse erreur parce qu'il y a d'autres pistes, en particulier l'hydrogène.
Oui, l'hydrogène, oui.
C'est certainement une solution, on va dire, intermédiaire qui sera trouvée, mais le tout électrique, moi, ça me fait peur parce que vous rendez compte le courant qu'il faut.
C'est sûr, c'est ce qu'on disait, c'est que là, il va falloir plancher sérieusement sur le sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Ah, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris qu'Apolline de Malherbe était très en colère face à Gérald Darmanin.
Elle n'était pas du tout en colère. En plus, elle était d'un calme olympien.
Elle était très remontée. On l'écoute.
Coups et blessures volontaires en très nette hausse. Violences sexuelles notamment en hausse. Tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM.
Mais je vois pas le rapport.
Vous ne dites pas non plus, et
mais
ça c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas
mais
non plus.
Mais je vois pas le rapport. La baisse,
est-ce que vous me laissez parler, madame?
Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes.
Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste.
Bon,
et c'est la difficulté.
Allez-y, essayez de démontrer l'inverse.
Non, mais vous vexez pas, calmez-vous.
Ce sont vos chiffres.
Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer.
Non,
il y a
30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment
ça
vous
va bien se passer, madame? Vous allez voir.
Mais
il y a 30%. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes.
Voilà. Donc Darmanin.
Il a pété le câble.
Alors Darmanin, qui a été donc accusé de sexisme. Alors, moi, je vous donne mon avis. Vous donnerez le vôtre après. J'opterai plus pour de l'impolitesse que du sexisme. Hein. Réflexion très rabaissante hein, quand tu dis à quelqu'un calmez-vous, ça va bien se passer. Mais visiblement, c'est un habitué du genre. Oui, comme l'a expliqué son patron.
Oui.
Marc-Olivier.
Et Édouard Philippe aussi.
Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM. Il était l'invité dans C'est à vous, avec l'ancien Premier ministre. Je vois que nous avons les mêmes sources. Édouard Philippe. Tenez, écoutez.
Il est misogyne, cet échange?
Non, c'est je crois pas que c'est misogyne, c'est un peu tendu, mais des interviews tendues, j'en ai fait aussi. J'ai entendu Gérald Darmanin, avec d'autres intervieweurs hommes, employer cette même expression, je crois que c'est une expression...
Avec moi aussi.
Avec vous?
Oui.
C'était bien.
Il a dit ça.
Gérald Darmanin.
Ça va bien se passer avec vous?
Non, mais souvent, c'est une expression que je dis souvent.
Mais oui, c'est une expression que j'ai
entendue. Vous vous calmez aussi? Calme-toi, Edouard.
Pardon, excusez-moi.
Non, très bien, vous me sauvez. Monsieur le Premier ministre.
C'est intéressant, cela dit.
Non, mais c'est une expression malvenue dans l'interview, mais que j'ai déjà entendue ailleurs, face, je crois d'ailleurs, à Jean-Jacques Bourdin. Et évidemment, comme l'interview est tendue, on retient ça. Après, Apolline est une excellente journaliste. Elle y a été au début avec un angle un peu fort et affirmé. Il a été un peu perturbé que ça aille si vite, si fort. Il a cette expression un peu malheureuse, mais qu'il emploie face à son patron, manifestement. Et en tout cas, face à d'autres intervieweurs. Voilà, c'est la campagne, il n'y a pas mort d'homme.
Il n'y a pas mort d'homme, sexiste, misogyne, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es justement...
Alors, C'est très indélicat.
Hein, ça, on est d'accord, ça se dit pas.
C'est indélicat, non, c'est très indélicat. Alors c'est vrai qu'Apolline de Malherbe donc, est très réactive aussi, elle est montée rapidement dans les tours, et très vite sur la défensive.
Oui.
D'une façon, effectivement, que je qualifierais de déplacée, d'indélicate.
Oui, absolument, moi je suis d'accord. Je parlerai pas de misogynie, mais plutôt d'impolitesse et d'indélicatesse.
Honnêtement, moi je suis pas du tout surpris, connaissant. Voyez,
tu connais Gérard ?
Je le connais pas personnellement, mais je vois bien le personnage quand même, il est pas sans coup d'essai. Vous êtes quand même pas surpris là, vous m'étonnez là.
Non, mais moi je sais pas la question d'être surpris, c'est la question de dire à quelqu'un, dès l'instant où un homme face à une femme va monter lui le ton, on va lui dire il est misogyne. Non, je pense qu'il est impoli, tout simplement, comme il a été impoli avec Bourdin dans le
club. Il est régulièrement impoli.
Oui, non, on est d'accord.
On a l'impression qu'il est en dessus de tout, il sait tout, il détient la vérité.
Quand tu es agressé comme il a été, c'est normal qu'il réagisse avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire pas forcément les bons. Mais...
non, mais il aurait pu temporiser. D'ailleurs, après, ça s'est plutôt bien passé, l'interview.
Oui, oui,
on
tout
a
à
retenu
fait.
Que ça, c'est ça qui est intéressant.
Parce que
l'interview se termine très bien.
Apolline de Malherbe est très réactive aussi.
Hein. Oui, oui.
Donc on sent qu'elle est lâche rien.
Ouais. Quand on va sur BFM, que ce soit chez Bourdin ou chez Apolline, on sait comment ça va se passer. Hein.
Oui, oui.
Tu les écoutes tous les matins, tu sais que ça envoie du bois et que faut être calme en face. Donc tu t'y prépares, parce que c'est un affrontement. C'est plus qu'une discussion. Et elles coupent la parole, ils ont une technique qui la mine. Après, pour moi, Darmanin a pas été bon du tout quoi sur ce coup-là. Apolline a peut-être abusé de sa position d'entrée de journaliste affirmé. Elle l'a vraiment mis dans les cordes d'entrée et je pense qu'il a été surpris.
Mais là, il a temporisé en disant mais calmez-vous, ça va.
Moi, la dernière fois qu'on m'a dit ça va bien se passer, c'est que tu vas te faire faire un petit examen, le gars il met un gain, tu vois. Et il dit calmez-vous, ça va bien se passer. Là, tu dis bon, ouais,
ça
je suis d'accord,
ne vous inquiétez pas,
ça fait pas plaisir.
Rappelez-vous l'interview de Bourdin qui demandait à je sais plus comment elle s'appelait, cette secrétaire d'État sur l'emploi, l'histoire des CDD, le nombre de CDD.
Cette histoire.
Il était très très désagréable, franchement.
Oui. Bon, mais oui, mais quelquefois. Alors
si
le
tu
problème aussi.
Quelqu'un, tu le pièges. Hein.
Pas d'être gentil aux journalistes.
Le problème aussi d'être pugnace, c'est bien, mais faut être pugnace avec tout le monde.
Oui.
Ce qui est quand même la moindre des choses. Et quelquefois, les journalistes choisissent un petit peu leur.
Vous avez la mémoire courte parce que lorsque par exemple. Georges Marchais disait taisez-vous El Kabash.
Non, Georges Marchais n'a jamais dit taisez-vous El Kabash.
Il n'a jamais dit.
Ça fait 20 fois qu'on le dit.
Ça c'est
un truc de fou, hein.
C'est la fake news.
Mais non, oui, c'est une fake news.
C'était repris par
Thierry Leluron qui dans une imitation disait taisez-vous El Kabash. Il n'a jamais dit.
Il a toujours coupé la parole.
Ah ben, qu'il ait coupé la parole, je te l'accorde, mais il n'a jamais dit. Je suis content que tu sois là.
Oui, ouais. Mais tout le monde le sait, ça, qu'il a jamais dit.
Il défend papa, c'est normal. Hein.
Il y avait longtemps.
Le personnage l'aurait pu.
Calmez-vous.
Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
J'aurais pu dire ça. Taisez-vous El Kabash, il aurait pu le dire, Marché.
Oui, il aurait pu.
Franchement.
On n'aurait pas été choqués.
Non.
On n'aurait pas été choqués. Donc, je reviens à ces journalistes.
Je vais faire une étude sur ces bons mots. Allez, vous sortirez ça à la prochaine émission si tu me réinvites.
Oui, bah, je suis bien obligé. Hein.
Tu es invité permanent, toi.
Tu fais partie des murs.
Si tu n'es pas là, on pleure, nous, alors.
Hein. Chroniqueur honoraire.
Donc, les journalistes pugnaces, c'est bien, mais il faut être pugnace avec tout le monde. Et quelquefois, on a le sentiment que. Disons qu'ils ont des accointances avec certains.
Dis-nous avec qui, là, parce que.
Vas-y, t'arrêtes pas de.
Je les ai jamais trop entendus.
Avec qui ?
Je vais vous parler d'Apolline, toujours Apolline de Malherbe, qui, il y a quelque temps, a reçu un certain Balkany.
Ah !
Vous vous souvenez, c'était le scoop. Avant qu'il reparte en prison, grande émission, Apolline de Malherbe qui reçoit Patounet, encore un Patounet.
Merci.
Patounet Balkany.
Oui, mais lui, il n'est pas en prison.
Pas encore.
Écoutez cet extrait donc de l'interview Balkany-Apolline de Malherbe. Visiblement, le monteur a oublié de couper un morceau. C'est embêtant.
Mais je dis, je vais pas emprunter de l'argent.
Vous devez encore combien ?
Je préfère pas vous en parler. Je préfère pas vous le dire.
Tu veux t'arrêter là?
Mais non.
T'es sous une montagne de dettes.
Une montagne, c'est... On ne sait pas, aujourd'hui, ça dépend, c'est entre... Je ne sais pas si c'est 10, si c'est 15 millions. Hein.
Eh oui.
Estue-toi, estue-toi.
Eh oui. Donc, voilà. Donc, si tu veux, d'un côté, tu as Apolline de Malherbe qui s'offusque parce qu'elle se retrouve avec quelqu'un qui la renvoie dans les cordes avec cette phrase déplacée. Et de l'autre, elle est en train de tutoyer Balkany. Donc, voilà.
Moi, je l'ai entendu, cette interview. J'ai été surpris par le ton de Balkany, parce que c'était quand même quelqu'un, quand il s'adresse aux médias ou à qui que ce soit, il est assez arrogant, il est assez tranchant. Bon, là, le gars, je pense qu'il a quand même pris aussi un bon coup sur la nuque avec ce qui s'est passé, mais je le trouvais assez posé, quoi. Il n'était pas dans les cordes.
Bah, il n'était pas dans les cordes, parce qu'il n'y a personne
gentil.
Qui... Bah, exactement. Donc, voilà.
Oui, et tout ouais. à fait. Donc,
il faut... voilà, on joue le jeu à fond. On peut connaître. Les journalistes à Paris connaissent les politiques, on est bien d'accord. Mais quand tu es à l'antenne, bah, tu es à l'antenne.
Mais c'était hors antenne.
Ah non, ça, c'était à l'antenne.
Ah oui.
Eh oui, ça a été diffusé comme ça. Ils ont oublié de le couper. Donc, c'était... voilà.
Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il a une masse, une montagne de... Je ne sais plus combien il doit, en fait.
17, 15...
Ça, même lui, c'est plus. Pas entre 10 et 15.
Il sait plus très bien.
S'il rembourse 500 euros par mois...
Il rembourse
500 euros par mois. Il n'a pas toujours... Il va falloir qu'il vive plusieurs milliers d'années.
On parlait d'Emmanuel Macron, chef de l'euro en ce moment, donc...
De l'Europe,
c'est la monnaie.
De l'UE. Voilà, chef de l'UE, excusez-moi. J'ai appris que Mélenchon avait, lui, une recette imparable pour régler, justement, le problème ukrainien. Donc, voilà la recette de Mélenchon.
J'irai discuter avec M. Poutine, puis après, j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai, là, faut arrêter. Puis, on irait voir les Ukrainiens, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe. Donc, c'est avec eux qu'il faut s'entendre d'abord.
Voilà, c'est pas compliqué la diplomatie. On va voir Poutine, on discute avec Poutine, on va voir Biden, ensuite on va voir les Ukrainiens, et puis voilà. Voilà. Donc on apprend des choses intéressantes. Moi j'étais assez scotché. J'ai appris aussi qu'il y a 40 millions de migrants qui arrivent illégalement en Europe chaque année. Alors, ce sont des chiffres hallucinants qui ont été avancés par Valérie Pécresse.
Il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passent pas par ces points de passage autorisés chaque année. Je crois que c'est de l'ordre, pas loin de 40 millions de migrants cette année qui sont rentrés dans l'Europe sans passer par ces points de passage autorisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contrôle.
Alors,
par un ancien frein, quoi.
On en était presque. Parce que tu te dis 40 millions.
C'est énorme, c'est énorme.
Ça fait quand même beaucoup, quoi. 40 millions de
mais
migrants.
Ils ne passent pas tous par le Mont-Genèvre. Parce que le jour où j'y suis passé, j'ai vu qu'il y avait des gendarmes partout. J'ai dit, ils vont faire une
pièce. Il y a plus de gendarmes que de migrants.
Ah, voilà. C'est ça, c'est le genre de communication qui est mal maîtrisé.
Alors, oui.
Non, mais j'ai l'impression que. Je ne veux pas critiquer ta candidate.
Non.
Je suis très respectueux de la démocratie. Mais franchement, elle a du mal, hein. J'ai encore écouté. Ce matin,
ça va pas pouvoir faire.
Twitter, mais j'ai rien compris à ce qu'elle racontait. Une fois, elle parle russe. Est-ce que tu l'as vu, ça?
Ah non, ça, j'ai pas vu.
Ah ben ça, il faudra que tu ailles voir.
D'accord.
Elle répond en russe, après, elle répond en anglais.
Un gars qui est chauffonne d'ailleurs.
Oui, mais d'accord, mais on est en campagne électorale en France. J'ai du mal à suivre, mais bon.
Ça plaît aux communistes, ça.
Donc en fait, pour faire simple, évidemment, 40 millions, le chiffre est faux. Le chiffre est faux, c'est un petit peu exagéré. En fait, il y a 200 000 personnes qui sont entrées illégalement en Europe. En fait, le chiffre vient d'un article du Figaro où Valérie Pécresse, en fait, a confondu migrants et personnes circulant dans l'espace Schengen. Donc si tu veux, voilà. Mais le problème, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que la personne, tu la regardes, tu écoutes, et tu te dis, ah, 40 millions de migrants, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte.
Mais il a raison,
on est
Zemmour.
Envahi, mais Zemmour, il a raison, voilà. Et tu te retrouves avec une fausse info qui va peut-être te faire changer la couleur de ton bulletin.